Merci Martine. Bonjour à nos collègues allemands et bonjour aux personnes qui sont dans la salle. Donc moi je suis membre du service veille et analyse dont je vais dire juste un mot. Peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà. C'est un service qui a été créé en 2003 avec pour mission, je dirais, d'observer un petit peu la recherche ou en tout cas les résultats de la recherche sur certaines thématiques qui paraissaient d'actualité dans le système éducatif français. Donc dans ce cadre-là, nous avons une activité un petit peu de surveillance de la recherche et nous produisons à un rythme approximativement mensuel ce qu'on appelle des revues de littérature. Donc ce sont des synthèses, en l'occurrence, qui font un petit peu le point sur une question donnée. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce que, avec mon collègue Olivier Rey, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais avec qui j'ai travaillé, nous avons donc ensemble réalisé une synthèse intitulée, je crois que c'était « L'évaluation au cœur des apprentissages ». En 2008, fin 2008, qui est en ligne. Vous aurez les références à la fin du diaporama si ça vous intéresse. Donc je vais me baser essentiellement sur ce travail-là pour mon intervention de ce matin, parce que, comme je vous l'ai dit, on fonctionne un peu comme un observatoire, donc on n'a pas vocation à, je dirais, rester sur des sujets. Donc on passe d'un sujet à un autre pour faire ce travail de synthèse. Donc voilà. C'était juste pour planter un peu le décor. Alors, je vais procéder en quatre temps. J'en avais prévu un cinquième, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps vraiment de l'étayer. Donc, j'ai enlevé la demi-diapo. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir sur la discussion. Mais bon, les quatre points sont les suivants. Donc, je proposais de partir de l'entrée évaluation formative. Voilà, de faire un petit peu un historique, pas un historique, parce que j'imagine que vous avez déjà beaucoup de connaissances sur le sujet, mais en tout cas de poser quelques jalons pour savoir ce qu'on entend par évaluation formative et comment ça s'articule avec une approche plus sommative éventuellement. Voilà. Rentrer dans une deuxième partie sur vraiment le mécanisme de cette évaluation formative avec les questions de feedback à travers auto-évaluation, co-évaluation et évaluation des enseignements, savoir comment ces trois modalités peuvent se combiner éventuellement au service d'une évaluation formative. Dans un troisième temps, l'idée, c'était de se focaliser sur une compétence en particulier, le savoir apprendre, qui n'est pas celle qui vous mobilise cette semaine, mais bon, justement, il faut changer un peu. Et puis là, disons qu'il y a des projets européens un peu macro, voilà, qui permettent de voir quels ont été les dispositifs mis en place pour essayer de mesurer cette compétence qui appartient au socle européen des 8 compétences clés. Voilà. Et puis dans un dernier temps, l'idée c'est de voir un petit peu un outil ou en tout cas une démarche plutôt, celle du portfolio, savoir comment cet outil ou comment cette démarche peut être également mobilisée au service de l'évaluation toujours formative. Voilà. Alors, donc dans un premier temps, on va essayer de revenir un petit peu sur les origines de cette évaluation formative, de voir comment elle a évolué au fil du temps. L'idée, c'est quand même bien, non pas d'évaluer un produit ou un résultat, mais d'évaluer un processus, et pas seulement pour le plaisir d'évaluer le processus, mais dans une perspective relativement claire, qui est de faciliter, de réorienter ou de réguler les apprentissages. Donc l'idée, effectivement, certains chercheurs disent, c'est davantage un message qu'on va fournir à l'élève ou aux élèves plutôt qu'une mesure. Alors comment est née cette approche-là avec la démocratisation scolaire dans les années 60. Donc les premières discussions autour de ce type d'évaluation ont émergé à ce moment-là. Avec l'idée effectivement de pouvoir mieux guider les élèves qui arrivaient dans le système scolaire, notamment en construisant des méthodologies pour suivre leur progression. Hein, l'idée de progression était importante à l'origine. Elle l'est toujours d'ailleurs, mais... voilà. Alors, bon, ça c'est deux ou trois points pour poser le décor. Maintenant, cette évaluation dite formative, elle n'arrive pas au milieu de rien. Elle arrive dans un contexte où il y a déjà beaucoup d'autres évaluations, j'ai envie de dire, et des évaluations plus ou moins concurrentielles. Voilà, notamment aujourd'hui, c'est très très net aujourd'hui avec la question de l'accountability, hein, de la reddition de comptes au niveau des établissements. Donc comment est-ce qu'on articule, je dirais, un niveau évaluation des élèves avec une question de performance des élèves, parce que c'est pas la même chose, hein, évaluer les élèves ou mettre en avant leur performance des établissements également et performance des systèmes éducatifs. Tous ces niveaux sont un peu imbriqués quand on regarde toutes les évaluations externes depuis les évaluations de CM2 jusqu'à PISA. Hein. Donc on a une notion un peu à géométrie variable, l'évaluation, et dans ce contexte, il faut que l'évaluation formative trouve sa place, et cette place-là n'est pas si évidente à trouver. Ça pose un certain nombre de questions ou de tensions, en tout cas, qui émergent de manière assez systématique de toutes les recherches que j'ai pu compulser, que j'ai essayé de synthétiser sur cette diapo. Donc ça pose des questions en termes d'engagement des personnes, donc engagement des élèves, engagement des enseignants. Hein. Jusqu'où va cet engagement? Quelle modalité il peut prendre? Très clairement. Comment cette évaluation formative s'articule avec d'autres formes d'évaluation, donc typiquement des évaluations bien sûr sommatives, mais aussi diagnostiques, pronostiques et certificatives, hein, parce que le fait, je dirais, que l'évaluation formative intervient sur un processus, elle peut, je dirais, être combinée quasiment avec tous les autres types d'évaluation, avec plus ou moins de réussite d'ailleurs. Une des difficultés rencontrées par cette approche de l'évaluation formative dans le système éducatif, c'est que on la prend souvent pas trop au sérieux, que ce soit du côté des parents, mais également du côté des élèves, parce que elle est davantage, je dirais, assimilée à un supplément d'âme, mais au bout du compte, elle sert à rien. C'est-à-dire que c'est pas sur ce type d'évaluation que va se jouer le passage à la classe supérieure ou la réussite aux examens. Donc on a tendance un petit peu à la négliger, et il y a des histoires un petit peu fameuses en Suisse, au Québec éventuellement, pour parler un peu des pays francophones, où on a essayé de remplacer le livret de notes ou le bulletin scolaire par des outils, je dirais, un peu plus formatifs qui étaient destinés aux parents, hein, de type livret de compétences ou autre. Et évidemment, ça n'a pas du tout marché, parce que les parents ont aussi besoin de savoir évaluer la place de leur enfant dans la classe. Et donc, on a dû refaire machine arrière, hein, ça a été le cas, effectivement, en Suisse et en Belgique, en Suisse et au Canada, au Québec en tout cas, peut-être aussi en Belgique, mais je pense surtout en Suisse. Bon, donc le positionnement de cette évaluation par rapport à ce qui existe déjà est compliqué. Hein. Ensuite, émergent des questions sur ce qu'évalue cette évaluation formative. Quels sont ses objets? Évidemment, et là ça devient aussi plus compliqué, parce qu'on est évidemment plus sur des compétences que sur des savoirs. Donc ça, je dirais, ça génère des questions sur comment on évalue des compétences, et je vous l'apprendrai pas puisque vous êtes là pour ça. Ça génère aussi des questions sur les outils et sur les méthodologies. mais sur les outils, c'est-à-dire sur quel, comment est-ce qu'on formalise, c'est une des questions, hein, ce processus d'évaluation formative, sur quel instrument on peut s'appuyer pour rendre, je dirais, moins arbitraire cette évaluation formative. Donc effectivement, on est là plus sur des outils de type portfolio que sur des contrôles écrits traditionnels, par exemple, hein, mais pas seulement. Une dernière source de tension qui ressort vraiment des recherches sur l'évaluation formative, c'est la question de l'équilibre entre le formel et l'informel. J'y reviendrai un petit peu plus loin avec un ou deux exemples. Il y a des questions autour de est-ce qu'il faut vraiment formaliser cette évaluation formative ou est-ce qu'il faut rester au niveau de l'informel en apportant un feedback à l'élève sans forcément capitaliser dessus, je dirais d'une manière explicite, partagée par la classe ou par la communauté éducative. Donc il y a aussi là une question d'échelle qui revient souvent dans ce qu'on fait de ces évaluations formatives. Alors, je vous ai parlé d'un petit peu de la démocratisation tout à l'heure. Les premiers travaux vraiment sur ces questions-là datent des années 70, hein, Bloom. Et à l'origine, il s'agissait vraiment de compléter, de complémenter l'évaluation sommative. Hein. C'était ça l'axe, en tout cas, enfin la justification de cette démarche-là. Il s'agissait effectivement de fournir des indications aux élèves sur leur degré d'acquisition d'un savoir donné et sur les erreurs commises. Donc on est bien dans la question du feedback. Simplement, ici, le feedback s'insérait, je dirais, dans une approche corrective, potentiellement comportementaliste, hein, sur le mode stimulus-réponse, c'était un peu ça, la conception de départ. On a évolué de cette conception, effectivement, stimulus-réponse, vers quelque chose de plus interactif, hein, une régulation plus interactive. C'est l'idée qui permet vraiment d'assurer le guidage, le contrôle et l'ajustement, hein, des activités à la fois cognitives, affectives et sociales des élèves, avec un feedback qui n'est plus de l'ordre de la correction comportementale, mais qui est plus exploratoire et qui facilite les allers-retours entre l'enseignant et les élèves et entre les élèves entre les élèves. Voilà. Donc on arrive progressivement à une notion que les Anglais ont appelée l'assessment for learning, qui était un peu le titre de mon intervention. J'avais pas mis évaluation formative parce que j'ai l'impression que cette notion d'évaluation dans et pour l'apprentissage est maintenant en tout cas très utilisée dans les pays anglo-saxons, et comme la théorie arrive plutôt des pays anglo-saxons, j'avais préféré rentrer par là, mais en gros on est dans une continuité, hein. Alors justement, si on migre un peu du côté anglo-saxon, là aussi, il y a eu quelque chose sur le formative assessment qui a évolué vers l'assessment for learning. Et là, les travaux fondateurs sont extrêmement importants. Ce sont les travaux de Black et Williams, hein, qui datent de 98 dans leur bouquin Inside the Black Box, qui ont vraiment marqué la dissémination des pratiques de cette question de l'évaluation formative, dans la mesure où elles ont, ces travaux ont réussi à mettre en évidence quasiment pour la première fois l'impact de cette évaluation sur les performances des élèves. Je peux lire peut-être la définition qui est là. C'est un petit extrait, hein. Le terme évaluation s'applique à toutes les activités entreprises par les enseignants et par les étudiants. Activités d'évaluation, Oui, c'est difficile à traduire. Toutes les activités développées par les enseignants et les élèves pour s'évaluer eux-mêmes, qui fournissent de l'information susceptible d'être utilisée comme feedback pour modifier à la fois l'enseignement et l'apprentissage. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que on est dans de l'interactivité. Hein, c'est ce que je vous disais, c'est l'idée clé. Hein. Donc le feedback, c'est pas dans un seul sens. Il y a des allers-retours. Et le feedback, c'est pas seulement pour améliorer l'apprentissage des élèves, c'est aussi pour améliorer l'enseignement des enseignants. Donc c'est cette dimension, c'est cette multidimension là qui est importante, me semble-t-il. Alors concrètement, que disent les travaux de Black et William sur ce qu'il faut faire en gros ? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on est bien content, on a une jolie définition, mais comment on s'y prend ? Alors par tout un tas de, je dirais, d'expérimentations, ils ont identifié quatre types de pratiques perfectionnées. Ils appellent ça des pratiques perfectionnées, donc j'ai repris le terme, qui portent à la fois sur le feedback oral, avec l'idée justement d'améliorer cette dimension interactive, donc de favoriser au niveau de la classe un dialogue, hein, enfin voilà, entre les différentes personnes. L'idée de renforcer les commentaires dans le feedback écrit, renforcer les commentaires, ça veut dire amoindrir la partie note, hein, la partie évaluation sommative dans le feedback écrit pour justement renforcer cette dimension de guidage et d'accompagnement à travers des commentaires. Bon. Ensuite, il y a une idée forte également sur laquelle je vais m'attarder un petit peu dans les diapos suivantes. C'est celle de l'évaluation entre pairs et de l'auto-évaluation. Sachant que l'évaluation entre pairs est une des modalités de l'auto-évaluation. Voilà. Et la dernière pratique perfectionnée mise en évidence est celle de faire du lien, comme c'était un peu prévu à l'origine d'ailleurs, entre le sommatif et le formatif. C'est-à-dire qu'il faut appuyer le formatif sur quelque chose, et le fait de l'appuyer sur des tests sommatifs semble être une bonne pratique. Alors, de ces premiers travaux de Black et William, on arrive à cette notion aujourd'hui d'assessment for learning qui est très répandue dans les pays anglo-saxons, en tout cas au Royaume-Uni, très répandue et aussi, je dirais, intégrée aux pratiques de classe. Hein. Donc, il y a tout un... Alors, quand ils disent assessment for learning, c'est à la fois de l'évaluation des apprentissages. Je me suis trompée, là je pensais assessment of learning and assessment in learning. Je me suis trompée, c'est pas is, c'est in, excusez-moi. Donc c'est à la fois l'évaluation dans l'apprentissage et pour l'apprentissage et de l'apprentissage. Donc les trois dimensions se combinent. Et concrètement, effectivement, ça a été intégré au curriculum des collégiens anglais depuis 2004, dans le cadre d'un programme de personnalisation des apprentissages. Et donc, cette question de l'assessment for learning bénéficie de tout un arsenal d'outils, de méthodologies, d'accompagnement que les étudiants, que les enseignants peuvent utiliser. Donc si vous recherchez un petit peu autour de cette question-là, vous allez trouver des outils, effectivement, pour les enseignants, et puis également des évaluations sur le fonctionnement de cette approche-là, qui est absolument clé dans le curriculum du K-Stage 3. Il y a même des classes, c'est-à-dire en Écosse, par exemple, il y a des classes, ils appellent ça des Assessment for Learning Classrooms, donc c'est des classes où, justement, on met en place de manière privilégiée ce type d'approche évaluative pour voir un petit peu comment ça se passe. Et... Voilà. Alors, J'ai dit que j'allais revenir sur une des modalités, une des pratiques perfectionnées de Black et Williams, qui est celle de l'auto-évaluation et de la co-évaluation, dans un premier temps. Alors, auto-évaluation, pourquoi ? Pourquoi on est arrivé à cette idée-là ? On est arrivé à cette idée-là parce que y a eu un besoin à un moment donné d'inscrire les apprentissages dans quelque chose de plus durable. Hein. Les Anglais disent sustainable. Ça veut dire qu'on a bien repéré que l'évaluation influe sur l'engagement des élèves. Donc l'idée c'est de capitaliser sur ça pour vraiment privilégier le savoir apprendre, hein. Donc permettre à l'élève de savoir gérer son rapport au savoir et de savoir évaluer à la fois quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses avant de décider comment il va évoluer dans ses apprentissages. Donc c'est cette question de la durabilité, enfin de la pérennité un petit peu de la démarche s'est posée à un moment donné, et donc c'est un peu pour ça qu'on a commencé à réfléchir à l'auto-évaluation. Et on a, je dirais, évolué de l'auto-évaluation à l'évaluation qui n'est plus seulement une évaluation pour et dans l'apprentissage, mais qui devient un apprentissage en lui-même. Hein. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que la démarche de l'évaluation devient une activité d'apprentissage à part entière. C'est l'idée qui est sous-tendue, je dirais, par ces questions d'auto-évaluation. Alors, comment on s'y prend ? Là encore, les pratiques observées récurrentes pour cette auto-évaluation, c'est le recours à l'étayage des apprentissages, la constitution d'un répertoire de stratégies d'apprentissage par les élèves, le développement de compétences d'auto-évaluation qui inclut la confrontation avec l'enseignant, parce qu'on ne s'auto-évalue pas tout seul sans un moment le regard de l'enseignant, et le développement de l'évaluation entre pairs à travers des grilles critériées ou à travers le tutorat par exemple. Qu'est-ce qu'on sait des bonnes pratiques ? En fait, qu'est-ce qui marche pour faciliter, en tout cas pour favoriser cette auto-évaluation ? Un des points clés, c'est la transparence des critères d'évaluation. Ça revient tout le temps. Il faut que ces critères d'évaluation soient explicites et que les élèves parviennent à une compréhension à la fois des objectifs pour appréhender... pour apprécier les efforts qu'ils doivent fournir pour arriver à atteindre les objectifs. S'il y a cette compréhension des objectifs et cette appréciation des efforts à fournir, l'auto-évaluation fonctionne. L'idée, c'est bien d'avoir, les Anglais disent « big picture », donc avoir une vue globale sur la tâche, ou en tout cas pas sur la tâche, mais peut-être sur l'ensemble des tâches, pour évaluer le chemin qui a déjà été parcouru et la distance qui reste à parcourir. C'est une idée clé, absolument. Autre idée clé en termes de bonne pratique, mais plus controversée, j'ai envie de dire, c'est ce qui tourne autour de la co-évaluation. Est-ce que la co-évaluation ou l'évaluation entre pairs peut être mise efficacement au service de l'auto-évaluation? Les recherches sont moins claires sur ce plan-là. C'est un peu effectivement controversé. Est-ce que évaluer le travail d'un tiers permet de mieux s'approprier des critères d'évaluation? Il n'y a pas vraiment de réponse, il n'y a pas de réponse claire en tout cas de la part de la recherche. Et puis, quand on s'intéresse un peu aux travaux de Baudry, notamment sur le tutorat, on sait que c'est pas si évident de mettre deux élèves ensemble et leur dire « vous vous aidez réciproquement ». Hein. Il signale en particulier la nécessité d'une certaine asymétrie entre le tuteur et le tutoré pour que ça fonctionne, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un élève qui soit en gros plus fort que l'autre, hein, pour l'accompagner. Si les élèves sont à égalité, apparemment, ça marche moins bien. Voilà. Alors, ce qu'on sait, en revanche, de ces questions d'auto-évaluation, on a du mal à identifier... les recherches ont du mal à identifier l'impact réel sur les apprentissages. C'est-à-dire qu'on entend toujours dire qu'il faut favoriser la réflexivité des élèves, hein, comme on le fait dans le système, dans la formation des enseignants avec le praticien réflexif. Oui, mais on n'est pas sûr que cette réflexivité, si on la stimule, a des effets directs sur les résultats d'apprentissage. Par contre, on est assez sûr que cette réflexivité a un effet sur l'engagement des élèves et sur l'estime de soi. Donc sur l'engagement, c'est-à-dire sur leur potentiel de participation, hein, aux activités, c'est un peu ça l'idée. Donc là, effectivement, la recherche met en évidence des effets, mais pas sur les résultats d'apprentissage en tant que tel. Alors, bon... Auto-évaluation, co-évaluation, évaluation des enseignements. Donc c'est pas quelque chose dont on parle en France, c'est encore une fois quelque chose qui est plus courant au niveau des pays anglo-saxons. Alors évaluation des enseignements, si on en parle en France, mais pour l'enseignement supérieur, et d'ailleurs ça marche pas du tout parce que les enseignants sont contre, ces approches-là sont, je dirais, déjà totalement normalisées dans l'enseignement supérieur aux États-Unis et au Canada en particulier. Je ne sais pas pour le Royaume-Uni, d'ailleurs, mais en tout cas, effectivement, pour un enseignant du supérieur américain, c'est tout à fait normal que ses élèves l'évaluent. Ça fait partie du jeu. C'est aussi tout à fait normal que ses collègues l'évaluent, viennent dans sa classe et effectivement, voilà. Chez nous, c'est pas du tout normal. Mais il faut savoir que voilà, il y a d'autres cultures et que ça existe ailleurs et qu'il y a il y a aussi toute une méthodologie, hein, qui est décrite avec des outils sur lesquels on peut s'appuyer pour faire ce travail-là. Voilà. Alors bon, c'est arrivé effectivement de l'enseignement supérieur dans l'enseignement secondaire, cette question-là, et c'est un petit peu concentré autour de ce que les Anglais appellent le pupil voice, hein, la voix de l'élève. Donc il y a tout un mouvement autour de ça, donc pareil, si vous cherchez pupil voice dans votre moteur de recherche favori, vous allez effectivement trouver des éléments qui vont dans ce sens-là, hein, dans l'idée que l'évaluation des enseignements participe à une démarche d'auto-évaluation. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Là encore, on reprend une des tensions que j'ai évoquées au début, entre le formel et l'informel, d'une certaine manière. Parce que, bon, alors, au Royaume-Uni, il y a effectivement des tests qui ont été mis en place. Hein. J'ai pas noté les noms, là, je me souviens pas, mais bon, je peux vous retrouver ça éventuellement. Donc, ça fonctionne sous le principe de consultation externe, hein, ou d'évaluation externe, pour reprendre un vocabulaire qui vous est plus familier, avec des questionnaires, hein, donc c'est assez automatisé, cette affaire-là. Ça fonctionne dans l'enseignement supérieur et ils ont commencé à mettre ça en place effectivement dans l'enseignement scolaire, où on va collecter le degré de satisfaction des élèves ou le degré de satisfaction des étudiants par rapport aux enseignements qu'ils reçoivent. Ce qu'on a appris, je dirais, de ces grands, de ces macro-systèmes, hein, de collecte de satisfaction, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer ou aux peurs qu'on peut avoir quand on est enseignant, enfin, on peut aussi avoir des peurs, d'ailleurs, une fois qu'on sait ça, mais c'est l'idée que quand même une masse d'étudiants qui répond à ce type de questionnaire, ça donne des résultats plutôt fiables. Hein. Donc effectivement, si on individualise à l'échelle de quelques individus, je dirais avec des profils perturbateurs, on peut avoir, des réponses aux questionnaires qui sont effectivement tout à fait partiaux, mais globalement sur la masse, les résultats sont plutôt fiables et pertinents. Donc c'est plutôt encourageant. Donc maintenant, on revient quand même à l'idée du formatif. Le formatif, c'est quand même faire en sorte que cette pupil voice, donc ce feedback des élèves sur leurs enseignements, arrive jusqu'à l'enseignant. Sinon, on n'est pas dans du formatif, bien entendu. Donc, la difficulté de ces consultations externes, c'est que on ne sait pas très bien si ça arrive effectivement jusqu'à la classe et si c'est exploité dans la dynamique d'enseignement-apprentissage. Donc, on se pose des questions sur comment faire pour que cette pupil voice, elle arrive dans le quotidien des apprentissages. Alors sur le comment faire, bah évidemment, je le mentionnais tout à l'heure, il faut une culture de classe qui encourage le dialogue. Parce que s'il y a suspicion, s'il y a méfiance, s'il n'y a pas confiance, ça peut pas fonctionner. Ça a l'air idiot de le dire, mais quand même, il faut que cette culture de classe soit effective. La démarche régulative, elle est efficace si elle n'est pas démagogique, clairement. C'est-à-dire si elle est suivie des faits. Hein. Il ne suffit pas de demander aux élèves « qu'est-ce que vous pensez de moi ?»« Vous êtes parfait, monsieur ?»« Oui, mais bon. » Ou alors « vous n'êtes pas parfait, et là, qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà. Il est essentiel que cette démarche ne soit pas purement pédagogique. Démagogique, pardon. C'était un lapsus très révélateur. Ce sera coupé au montage, Martine, s'il te plaît. maintenant, sur les retours des élèves, là, encore une fois, on observe une certaine fiabilité dans le sens où il y a une certaine homogénéité des réponses. C'est-à-dire que les élèves, quand on leur demande ce qu'ils pensent de leurs enseignements, sont en capacité de dire ce qui les aiderait le plus dans leur enseignement. Et en général, ce qu'ils répondent, c'est effectivement plus d'interactivité, plus de travail collaboratif, plus d'authenticité, plus de sens dans leurs apprentissages. Mais en même temps, ils répondent ça, mais ils sont pas non plus révolutionnaires, dans le sens où ils vont pas vous dire il faut casser la classe et puis aller faire cours je sais pas où, au milieu de nulle part, enfin avec des choses complètement alternatives, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils réagissent avec leur répertoire d'usage, enfin ce qu'ils savent de comment fonctionne le système scolaire. Hein. Donc ils réagissent par rapport à ça. Ils font des propositions, en tout cas sensées par rapport à leur connaissance du milieu éducatif. Maintenant, effectivement, la question derrière tout ça, c'est la question des enseignants et de l'inconfort potentiel des enseignants par rapport au feedback des élèves sur leurs propres enseignements, qui est évidemment une question clé. Alors, je vais vous poser que des questions, hein, je vous apporte pas de réponse, vous avez déjà compris. Non, j'ai essayé vraiment de faire ressortir de la littérature scientifique, parce que c'est mon boulot, hein, je suis pas quelqu'un qui travaille sur le terrain. Voilà, les grandes questions et éventuellement les grandes réponses quand il y en a. Hein. Mais c'est plus rare. Alors je vous le disais, effectivement, il y a des classes. Ah, je vous ai dit l'Écosse, je me suis trompée, c'est l'Irlande du Nord. Il y en a peut-être aussi en Écosse, en tout cas, c'est les Assessment for Learning Classrooms dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont effectivement des classes formatives, hein, et qui ont intégré cette dimension du pupil voice dans leur fonctionnement quotidien. Alors, ils ont identifié quatre facteurs clés, hein, dans cette approche pupil voice. Space, donc l'idée d'avoir un espace qui permet d'exprimer son point de vue, en tout cas, une opportunité. Voice, l'idée d'avoir non seulement l'espace, mais aussi la possibilité d'ouvrir la bouche et de prendre la parole, que cette prise de parole soit encouragée. La question de l'audience, l'idée qu'il faut l'attention d'un public, et la question de l'influence, l'idée que ce qui se sera dit dans cette approche People Voice soit à un moment donné pris en considération, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui ressort d'une des études que j'ai mentionnées dans mon dossier, j'ai pas mis les références, mais vous pourrez la retrouver si ça vous intéresse. C'est assez classique, somme toute. Hein. C'est l'idée que les opportunités de s'exprimer, qu'elles soient bien formalisées ou plutôt informelles, elles existent quand même. Donc, des élèves qui sont pas contents, ils arrivent à le faire savoir à un moment donné quand même, que ce soit formel ou pas. En revanche, justement, si c'est formel, ils s'attendent un petit peu à ce que ça serve à quelque chose de le dire. Et là, c'est beaucoup plus aléatoire. Donc, ils considèrent qu'ils sont pas suffisamment écoutés et que ce qui remonte n'est quasiment jamais suivi d'action. Et ça, c'est dans le cadre des Assessment for Learning Classrooms. Hein, je vous parle pas de n'importe quelle classe. Réaction des enseignants par rapport à cette étude-là, c'était « c'est pas notre faute, c'est la faute de l'organisation scolaire, du curriculum, des pressions sur l'obligation de résultats, donc on n'a pas les moyens de prendre en compte les retours des élèves. Conclusion de cette affaire-là, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut formaliser le pupil voice, hein, c'est ça l'idée. Parce que, quand je vous disais, ces questions se posent toujours. Quand on est dans le formatif, si effectivement on met en place un protocole flexible ou moins flexible, ou en tout cas une démarche formelle, à un moment donné, il faut qu'il y ait un retour. Il faut qu'il y ait un retour aux élèves et il faut qu'il y ait une évolution à la fois peut-être de l'élève dans son approche de l'apprentissage, mais aussi une évolution de l'enseignant. Si l'enseignant n'a pas les moyens, pour des raisons X ou Y, d'évoluer dans son enseignement, eh ben forcément, le formatif ne marche pas. Donc, dans ce cas-là, pourquoi le formaliser, hein ? Restons au niveau micro de la relation entre l'élève et le prof qui va peut-être intervenir à un moment donné pour le guider, mais dans ce cas-là, les déceptions sont nécessairement moins fortes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette question du formel et de l'informel pour l'évaluation formative me paraît tout à fait clé. Alors, le savoir apprendre, en fait, je vois pas du tout l'heure. Oui. Bon, faut que j'avance un peu plus vite, mais je vais trop vite déjà. C'est vrai? Bon. Bon, d'accord. Bon, de toute façon, je pense qu'il y avait une demi-heure de questions, donc on peut prendre. Puis on a commencé en retard, hein, donc ça va. J'ai encore du temps. Savoir apprendre, comment le mesurer? Alors, je vous ai dit, on va essayer de prendre une de ces compétences clés, hein, de l'Europe pour voir un petit peu, justement, si on peut formaliser, hein, l'évaluation d'une compétence telle que celle-là. Bon, derrière, c'est quand même l'idée qu'on fait le pari que les élèves doivent être capables d'évaluer et de réviser leur propre travail. Hein, donc on revient sur cette idée-là et d'identifier les prochaines étapes de l'apprentissage. Donc on est sur le savoir apprendre, mais le savoir apprendre, je dirais pas seulement comme quelque chose de ponctuel, mais comme quelque chose qu'on va intérioriser vraiment. Comment ça s'enseigne? Ben, on sait pas le faire, évidemment. Et comment ça se mesure? Ben, on sait pas trop le faire non plus. Mais quand même, on essaye parce que c'est une recommandation de la Commission européenne. Bon, on n'a pas cette compétence-là directement dans notre socle à nous, hein, mais il y a autonomie et esprit d'initiative là qui flirte un peu avec cette idée-là. Chez l'OCDE, pareil, la DESECO, c'est pas une compétence macro, en tout cas, c'est une compétence transversale. Mais bon, cette idée du savoir apprendre est quand même une idée clé. Alors, comment on fait pour enseigner le savoir apprendre? Ben, on sait pas trop, mais quand même, ce qu'on sait, c'est qu'il faudrait diminuer le poids de la performance, hein, au profit d'une centration sur l'autonomie. Ça paraît là aussi assez évident. Et on n'est pas très bien parti pour diminuer le poids des performances, me semble-t-il. Ça aussi, ce sera coupé au montage. sur le principe, voilà. Alors, comment on mesure maintenant le savoir apprendre qu'on ne sait pas enseigner? Et la question, c'est est-ce qu'il faut construire, ou est-ce qu'on peut construire, ou est-ce qu'il est pertinent de construire un outil de mesure générique qui soit fiable et généralisable? C'est la question que s'est posée l'Union européenne. Et je vais essayer de vous donner des éléments de réponse, parce que ça a donné lieu à une recherche qui continue peut-être d'ailleurs encore, j'ai malheureusement pas eu le temps de vérifier. En tout cas, un des résultats clés de cette recherche-là, c'est que on n'enseigne pas et on ne mesure pas le savoir apprendre sans quelque part le relier à un contenu. C'est-à-dire, savoir apprendre, c'est savoir apprendre quelque chose. Donc, on ne peut pas évaluer le savoir apprendre indépendamment d'un contexte et indépendamment d'un savoir, je dirais, de nature disciplinaire. C'est un peu ça ce qu'il est ressorti. Hein. Il faut savoir apprendre quelque chose. Là aussi, ça a l'air assez évident dit comme ça, mais quand même, ce projet-là a mobilisé... combien ? Je ne l'ai pas mis là. Oui, 2300 élèves de 14 ans dans 50 écoles en Europe pendant un certain nombre d'années, plus un certain nombre de gens derrière. Donc, cette étude a été menée par le CREL. Le CREL, c'est le Center for Research on Education and Lifelong Learning. C'est pas un truc indépendant, hein, je sais pas quel est le statut, mais c'est une agence de l'Union européenne. En tout cas, c'est peut-être le mot agence, c'est peut-être pas bon. C'est en tout cas, ça fait partie de l'Union européenne. Hein, c'est pas un think tank indépendant. Et donc leur boulot, c'était effectivement d'essayer de savoir comment on peut mesurer cette compétence à apprendre qui est dans le socle européen. Et donc d'élaborer un test à l'échelle européenne qui intègre toutes les dimensions, c'est-à-dire la dimension affective, cognitive, métacognitive de l'apprendre à apprendre. Bon. Ils se sont appuyés notamment pour réaliser ce test, ou en tout cas pour le réaliser sur des travaux qui avaient été menés auparavant par l'Université de Bristol, sur lequel je crois je reviens. En fait, on voit rien du tout, mon petit schéma. Même moi, je le vois pas parce que c'est flou. Mais bon, c'est pas grave, j'y reviendrai tout à l'heure. Des Effective Lifelong Learning Inventory. Donc, c'était effectivement la même idée, hein, c'est-à-dire de construire une espèce de grille qui permet d'évaluer le savoir apprendre ou l'apprendre à apprendre. Je vous ai mentionné sur la diapo cette initiative de l'Université de Bristol a fait son chemin. Donc c'est pour ça que je l'ai mentionné. Quand je dis elle a fait son chemin, ça veut dire que elle a été, je dirais, récupérée au niveau national au Royaume-Uni, instrumentalisée, mise à la disposition des classes. Donc elle est utilisée dans les classes, cette démarche-là. Voilà, et il y a un rapport qui est sorti dernièrement dont j'ai pas eu le temps d'aller voir le contenu, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas ce rapport existe, c'est un rapport d'inspection, hein, l'Ofsted, c'est le service d'inspection du Royaume-Uni, de l'Angleterre en l'occurrence, pas du Royaume-Uni, qui a donc sorti un rapport sur comment cet inventaire permettant d'évaluer la compétence apprendre à apprendre et utiliser dans les classes. Voilà. Donc peut-être que ça peut être intéressant d'aller jeter un coup d'œil à ce rapport, mais j'ai pas pu matériellement le faire, mais je vous signale qu'il existe. Voilà. Alors, donc effectivement, c'est un projet qui a mobilisé quand même pas mal de monde, comme je vous le disais. Les premiers résultats sont les suivants. Donc je les avais compulsés effectivement fin 2008, donc je ne sais pas exactement comment le projet a évolué aujourd'hui. C'était l'idée qu'il fallait une articulation plus forte entre une définition un peu formelle et normative de la compétence, toujours, on est toujours sur l'apprendre à apprendre, hein, et une multiplicité de contextes qui sollicitent cette compétence. Donc en gros, c'est ce que je vous disais au début, hein, je le redis autrement, hein, donc c'est bien l'idée de savoir à apprendre quelque chose. Et donc ça, il faut l'instrumentaliser si on veut construire des outils un peu à grande échelle d'évaluation de cette compétence. Il faut instrumentaliser cette compétence dans son contexte, ou dans ses contextes, ou dans des contextes. Deuxième élément de résultat. Il est plus politique cette fois-ci, je dirais plus critique par rapport à la démarche. C'est l'idée qu'il y a quand même une incertitude sur à quoi sert un macro-système comme ça qui pourrait être appliqué dans toutes les classes européennes pour évaluer ce savoir apprendre chez les élèves. Là, on perd un peu de vue, me semble-t-il, la dimension formative. Hein. Donc, ça, là, c'est le même principe que les évaluations externes. Hein. On retombe dans le même type de travers. Ça sert à quoi de faire des macro-systèmes comme ça? Est-ce que c'est pour faire du diagnostic? Est-ce que c'est sommatif? Est-ce que c'est purement politique? On ne sait pas trop. On prétend faire du formatif parce que quand même on évolue des compétences, mais en même temps le niveau classe et le niveau établissement sont pas sollicités, hein, on sollicite directement le niveau élève et je dirais on occulte les deux autres niveaux. Bon, c'est une question. Autre question, c'est qui évalue les compétences, c'est-à-dire qui a vocation à évaluer les compétences, effectivement, dans une approche de type formatif. Est-ce que c'est quelque chose qui doit partir d'un niveau institutionnel gouvernemental, ou est-ce que ça doit être quelque chose qui se négocie à l'échelle d'une classe ou d'un établissement? Ça pose question. Et la question, c'est celle-là, c'est la tentation de la formalisation. Hein. C'est-à-dire quel équilibre on va trouver entre une approche un peu formelle et une approche informelle, quels instruments, quels usages de ces instruments ou quels mésusages de ces instruments. Une évaluation formative peut-elle être un pur bricolage composé des éléments de contexte connus de l'enseignant, hein, donc se jouer uniquement dans la relation élève-enseignant ou peut-être dans la classe, à l'échelle de la classe. Est-ce qu'elle a vocation à être un peu plus formalisée que ça et à s'inscrire de façon plus systématique dans un protocole qui éventuellement fait l'impasse de la situation, hein, ou du contexte. Bon, donc ces éléments-là sont des éléments de tension qui reviennent en permanence quand on s'interroge sur ces questions d'évaluation formative ou d'évaluation dans et pour l'apprentissage. Voilà. Je vais finir sur ce plan-là en revenant sur le dispositif ELI, là, au Royaume-Uni, qui me paraît intéressant à explorer si c'est des sujets qui vous intéressent. Donc, les chercheurs de Bristol qui ont travaillé sur la conception de cette grille, hein, inventaire, je vais dire grille, a identifié sept dimensions de ce qu'ils appellent le learning power, donc le pouvoir d'apprendre. C'est pas le savoir apprendre, c'est le pouvoir d'apprendre. Bon, mais quand même, on tourne toujours un peu autour des mêmes choses. Et ces dimensions combinent effectivement des dispositions, des expériences, relations sociales, valeurs, attitudes, convictions, etc. Bon, donc il y en a sept, je les ai pas notées. En fait, elles étaient sur mon petit schéma dans la diapo d'avant. Sauf que j'arrive pas à les lire, donc. Mais bon, vous devriez pouvoir retrouver ça. Bien, donc évidemment, les chercheurs ont établi la grille, mais ils ont testé la grille. Qu'est-ce qui revient de leurs travaux? Ils ont identifié en gros deux profils d'apprenants, hein, par rapport à cette question du learning power. Hein. On est toujours là-dedans. Donc, d'une part, des élèves efficaces, engagés et dynamiques, et d'autre part, des élèves plus passifs, plus dépendants et fragiles. Donc, évidemment, c'est un peu monolithique ce que je dis là. Il y a des variations. Par contre, alors un des résultats importants, c'était le suivant, mais je pense que là encore, j'ai l'impression un peu d'enfoncer des portes ouvertes, mais bon, c'est bien l'idée que plus les élèves avancent dans leur scolarité, plus ils deviennent faibles dans les dimensions identifiées. Ça veut dire quoi ? Bon, notamment, il y a la dimension créativité, je me souviens. Plus ils avancent dans la scolarité, moins ils sont créatifs. Et c'est pareil sur les 6 autres dimensions dont je ne me souviens plus. Donc ça, vous le savez déjà, somme toute. Voilà. Et donc, plus d'une certaine manière, ils deviennent dépendants et fragiles dans leurs apprentissages ou dans leur rapport au savoir apprendre. Bien. Donc ça, c'était des travaux de recherche qui dataient de 2008. C'est pour ça que je pense que ça doit être intéressant maintenant d'aller jeter un coup d'œil au rapport d'inspection dont je vous parlais pour voir effectivement comment cette grille est rentrée dans les classes et qu'est-ce qu'il en est ressorti aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais terminer par mon dernier point, c'est le portfolio. Vous avez dû déjà peut-être avoir des interventions dessus cette semaine. J'espère que ce que je vous raconte là ne fait pas trop redite avec ce qui a été dit avant. Je ne me rends pas bien compte. Parce que... Pas du tout ? Bon. Bah tant mieux. Donc le portfolio, un outil réflexif au service de l'évaluation. J'aurais pu mettre un point d'interrogation, mais en fait non, je l'ai enlevé parce que quand même... bien. Alors, portfolio, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est comment il faut attraper cet objet-là ? Est-ce que c'est un outil ? Est-ce que ce sont des outils ? Est-ce que c'est une démarche ? Comment est-ce qu'il faut comprendre ça ? Alors, ça vient de la photo, hein, portfolio. Donc, c'était l'idée au départ de collecter des photos pour constituer un espèce de livre avec sa production de photos, hein, pour aller le montrer, etc. Bon, donc on est bien sur cette idée-là de collecter en tout cas des informations. Peut-être pas toutes les informations, donc collection sélective et structurée d'informations, rassemblées dans un objectif précis, hein, capable d'illustrer les réalisations et les progrès de l'élève, stocké sur un support numérique et géré dans un logiciel approprié permettant l'utilisation de fonctionnalités. Bon, ça me paraît moins important. L'idée, c'est qu'au départ, le portfolio, évidemment, était papier et qu'avec le numérique, on est passé à l'idée du portfolio numérique. Donc, je vous ai cité la définition qui revient assez systématiquement au niveau des productions européennes, en particulier pour ce qui est le portfolio européen des langues, etc. Enfin, la définition qui est communément mise en avant, c'est celle de Chalice qui date de 2005, qui est celle que je vous ai traduite ici. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé parce que il règne quand même une confusion assez importante sur ce que c'est qu'un portfolio, dans quel contexte on l'utilise, pour qui, pourquoi. Il y a beaucoup de confusion et je vous apprendrai pas que j'ai pas écrit tout le vocabulaire. Si vous regardez la sémantique française par rapport au livret de compétences, au livret d'apprentissage et que sais-je encore, voilà, donc ça, du côté de l'ONICEP, ça s'appelle encore autrement. Enfin bon, donc il y a tout un tas de dénominations autour de ce qui, somme toute, fonctionne comme une collection sélective et structurée d'informations, etc., donc comme un portfolio qui génère beaucoup de confusion sur effectivement l'intérêt de ces outils-là ou de cette démarche-là. Ce qui revient également de manière assez systématique, c'est un questionnement sur les outils. Quand on s'intéresse à la question de portfolio, pareil, vous mettez portfolio ou e-portfolio dans votre moteur de recherche préféré, vous n'allez pas trouver comment on utilise ça dans les classes. Non. Vous allez trouver tout un tas de sites qui vont discuter sur, encore une fois, des macro-systèmes, hein, avec des standards interopérables, avec des choses qui vont durer toute la vie, et voilà, et qui vont permettre la continuité pédagogique depuis la maternelle jusqu'à la retraite. Bon, j'exagère un peu, mais quand même, voilà. Et puis évidemment derrière il y a un marché. Je vous apprends pas. donc ça génère des appétits commerciaux assez phénoménales, ces trucs-là. Voilà. Sauf que ça nous aide pas beaucoup pour le sujet qui nous préoccupe. Donc je propose qu'une fois qu'on a dit que ça existe, on ferme le tiroir et on passe à autre chose. L'idée quand même qui ressort des recherches sur comment on utilise le portfolio en classe, c'est que justement il faut s'affranchir de cette question des outils. Un portfolio, c'est pas un outil. Un portfolio, c'est une démarche. J'aurais pu l'écrire parce que c'est ça qui était important. Je l'ai pas écrit. Bon. Mais vous pouvez l'écrire vous. Un portfolio, c'est d'abord une démarche. Après, l'outil, peu importe l'outil, c'est totalement illusoire de se dire qu'aujourd'hui, on va mettre en place un outil dans une classe avec des élèves de primaire ou de début de secondaire et que même ils vont l'utiliser jusqu'à ce qu'ils soient étudiants. Faut arrêter avec ça. Il faut se libérer de ces idées-là. C'est d'abord une démarche qui durera le temps qu'elle aura besoin de durer, en tout cas le temps de la classe, ou en tout cas le temps qui va mobiliser des enseignants et des élèves autour de cette démarche-là. Et puis après, on verra. Peut-être que ce sera un autre outil. Ça n'a pas d'importance. L'idée qu'un système trop perfectionné, voire trop standardisé, voire trop interopérable, ça va être tellement compliqué que de toute façon les élèves vont pas réussir à s'en servir. Ça, c'est une idée qui revient beaucoup. La démarche, elle doit privilégier d'une certaine façon l'initiative de l'élève et donc la créativité. Hein. Un élève, il doit être à l'aise avec son portfolio, y inclure les éléments qu'il a envie d'y inclure. Donc aujourd'hui, on est dans le numérique, donc il faut qu'il puisse y mettre des vidéos, de l'audio, des images, du texte, peu importe. Et puis, il faut qu'il puisse organiser cette collection d'informations à sa manière. Donc si le système est trop verrouillé, trop peu flexible, il va pas s'y retrouver et ça va l'embêter, très clairement. Bon, maintenant qu'on a dit à peu près à quoi ça doit ressembler, ou surtout à quoi ça ne doit pas ressembler, il faut s'interroger sur à quoi ça sert. Un seul support, à supposer qu'à un moment T0 on ait un seul support, mais pour en faire quoi? Et là encore, c'est pas si évident. Il y a, je dirais, des concurrences entre des attentes qui sont plutôt externes, hein, la collecte des preuves comme produit. Donc on va avoir un produit au final, hein, c'est le book de photos dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on va aller montrer. Et puis il y a des attentes internes qui sont de l'ordre de la collecte des preuves comme processus. Et évidemment, il y a tension entre ces deux approches-là. L'idée, alors il y a Scalon, je ne sais pas si vous connaissez Scalon, mais c'est un Canadien. Il a beaucoup écrit sur ces questions d'évaluation formative et aussi sur le portfolio. Il fait des choses très bien, je vous recommande. Sa réponse à lui, c'est de dire c'est pas un produit. Enfin, un produit, il y en a des tas d'autres, des produits. Hein. L'intérêt de ce qu'on appelle un portfolio, c'est justement de travailler sur le processus, pas sur le produit. Bon, en même temps, cette démarche portfolio, c'est une démarche d'auto-évaluation qui est progressive et qui peut combiner plusieurs niveaux. C'est ça sa position. Combiner plusieurs niveaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir, par exemple, je reprends son vocabulaire à lui, hein, donc on n'est pas obligé d'utiliser le même vocabulaire, ça, au bout du compte, ça n'a pas d'importance, mais il distingue trois niveaux. Un niveau dossier d'apprentissage qui serait le niveau où on va tout collecter. Hein, l'élève va collecter tout, dedans tout ce qu'il a envie de, en tout cas, de retenir par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ses activités. Voilà, il va y mettre ses commentaires, et ça, ce sera pour lui, rien que pour lui. Un deuxième niveau qui va être un niveau de présentation, qui là fait écho à la dimension vraiment formative. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va choisir un certain nombre de travaux, pas forcément les travaux les plus réussis, parce que c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de lui demander comment il s'en est sorti par rapport à une tâche donnée à ce niveau-là. Et donc, dans ce niveau 2, il va collecter un certain nombre de travaux pour montrer comment il s'en est sorti et comment il a progressé par rapport à une tâche donnée. Donc il peut montrer qu'il a eu des difficultés à progresser. Il a le droit. C'est même... voilà, ça veut dire qu'il a plutôt compris comment ça fonctionne. Et puis, il y a un troisième niveau qui est plus... je dirais qui flirte plus avec une visée sommative cette fois-ci, qui serait là encore une sélection de travaux fait par l'élève, mais cette fois-ci... pour étayer vraiment l'évaluation d'une compétence. Voilà, donc on lui demande de faire ce choix. Et donc cette démarche-là, là on voit bien que c'est une démarche, hein. Il ne suffisait pas de le dire, comme je disais tout à l'heure. Quand on rentre, enfin je veux dire, quand on considère que le portfolio peut combiner ces trois niveaux-là, on est bien dans quelque chose de progressif, hein. Alors dans les faits, comment ça se passe? Donc il y a cette approche progressive. Hein. L'idée c'est qu'il faut pas quand même tout mélanger. Donc le portfolio, il peut rendre compte d'un résultat d'apprentissage. Comme je vous ai dit tout à l'heure au niveau 3, on va faire une sélection des meilleurs travaux pour montrer qu'on est capable de ou qu'on est compétent pour. Il intervient aussi sur la qualité du processus d'apprentissage, donc sur la progression, c'est le niveau 2. Mais par contre, un portfolio, c'est pas un bulletin ni un livret scolaire. Et ça marche pas. C'est-à-dire que si le portfolio doit servir à un moment donné pour montrer aux parents ce qui se passe dans la classe et comment leur enfant est bon ou pas bon, ça va pas du tout bien se passer. Hein. C'est les problèmes rencontrés, comme je vous disais tout à l'heure, en Suisse et au Canada, au Québec, avec le renouveau pédagogique, où ils ont dû revenir en arrière parce qu'ils avaient commencé par supprimer le bulletin de notes et à le remplacer par quelque chose, effectivement, qui s'apparentait à une approche de type portfolio. Et ça n'a pas du tout marché. Les parents ne s'y retrouvent pas et les élèves plus ou moins. Donc il ne faut pas confondre ce niveau-là, c'est clair. Donc une des questions principales quand on s'intéresse, enfin, quand on veut mettre en œuvre cette question de portfolio, c'est de savoir quel est le public. Hein. Je crois que j'ai dû l'écrire quelque part, je ne le vois pas sur cette diapo, mais quel est le degré d'ouverture du portfolio, hein, qu'est-ce qui est visible par qui? Et ça, c'est extrêmement important. Toutes les études sur le portfolio montrent que c'est d'abord la propriété de l'élève, très clairement. Donc c'est lui qui est responsable de ce qui est collecté, c'est lui qui est responsable de l'organisation de ce contenu, c'est pour ça qu'il faut que l'outil soit facile à prendre en main et soit pas une usine à gaz. Voilà, que l'outil permette de collecter une diversité de preuves, comme je le disais tout à l'heure, et permette de rendre compte d'une diversité de stratégies. Dans les bonnes pratiques, alors il y a des questions qui ont émergé, alors par exemple sur la matière. Il y en a certains qui ont dit oh, les mathématiques, par exemple, c'est pas adapté pour avoir une démarche de portfolio. Bon. Donc est-ce qu'il y a des matières qui sont plus compatibles que d'autres avec la question avec cette démarche-là? La réponse est clairement non. C'est-à-dire que dans toutes les matières, on peut mettre en place une démarche de type portfolio. Par contre, ce qui fonctionne mieux, plutôt en termes de résonance au niveau des élèves et au niveau des enseignants aussi, enfin je veux dire en termes de régulation interactive, c'est l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'un portfolio qui effectivement fait travailler ensemble plusieurs profs, ça fonctionne mieux qu'un prof qui travaille tout seul. Voilà. Un autre élément qui émerge des recherches, c'est l'idée que la difficulté pour les enseignants à analyser les traces est bien réelle. Pour qualifier les projets, c'est pas les projets, c'est pour qualifier les progrès. C'est-à-dire que, effectivement, les enseignants ont partiellement accès au portfolio. Donc, quel type d'accès déjà? Donc, c'est des choses qui doivent faire partie d'une certaine négociation. Mais simplement, les enseignants n'ont pas nécessairement les outils. C'est-à-dire, une fois qu'il y a cette collection de documents, une collection d'informations, hein, eh bien, comment on analyse ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est capable de les analyser pour qualifier les projets réels des élèves, les progrès réels des élèves, pardon? On ne sait pas tellement faire. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est un peu un point aveugle de l'utilisation des portfolios, parce que une fois qu'on a trouvé un outil qui va bien avec les élèves, qu'on a mobilisé ses camarades, ses collègues, qu'il y a une dynamique, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? On a du mal. Donc pour l'instant, là, voilà. Ensuite, il y a la question de l'intervention, hein, donc quel degré d'intervention des enseignants dans cette affaire-là, voilà, jusqu'où va l'enseignant, quel degré d'intervention des pairs également, hein, parce que les pairs peuvent avoir aussi accès à une partie du portfolio, ça se négocie, ça se décide avec le groupe, hein, il n'y a pas de réponse unilatérale à cette question-là. Quelle durée? Effectivement, je disais tout à l'heure, un portfolio n'a pas vocation à durer de la maternelle à la retraite, bien entendu. Simplement, la question de la durée, c'est aussi une question, hein. Dans l'espace-temps scolaire, est-ce que on va mobiliser des énergies pour un an, ou bien pour 2 ans, ou bien pour un cycle? Bon. Quand même, ça s'éclaircit, cette question-là. La question de la visibilité, je l'ai déjà dit, qui est absolument cruciale. Voilà. Qu'est-ce qu'on rend public à qui? Dans la démarche, c'est important. Parce qu'il faut que l'élève garde ce sentiment de propriété. Hein. S'il y a violation, si les enseignants vont trop loin, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas dans cette approche de type formative. Hein. Ça marchera peut-être pour faire une jolie collection de photos ou de documents ou autre chose, mais en tout cas, voilà. L'impact réel reste quand même assez méconnu, mais effectivement, il y a 2-3 choses qu'on sait, et je vais terminer avec ça. Ça marche bien si vraiment on valorise les réussites. C'est-à-dire que la démarche portfolio, c'est pas fait pour pointer les insuffisances des élèves. Voilà. Ça a l'air bête aussi à dire comme ça, mais quand même, c'est assez fondamental dans la manière, je dirais, d'animer ce truc-là au niveau des classes. Ça marche bien aussi quand on reconnaît ce que l'élève sait, indépendamment, encore une fois, de l'espace-temps scolaire. C'est pour ça que le portfolio des langues, ça marche plutôt pas mal, parce qu'on prend en compte les connaissances linguistiques des élèves, indépendamment du contexte scolaire. C'est-à-dire que, en gros, s'ils sont bilingues, on prend en compte le fait qu'ils sont bilingues et on ne va pas leur demander de faire semblant d'être mauvais pour s'adapter à ce qu'ils ont appris en classe. Donc on prend l'élève, je dirais, dans toutes ses dimensions et dans sa dimension jeune, hein, qui existe aussi en dehors de l'espace-temps scolaire. Et dernier point, ça marche bien aussi quand le portfolio il est associé à des moments clés du parcours des élèves plus tôt. Et notamment quand il y a des décisions à prendre, si on peut parler de décisions à prendre, parce que l'orientation c'est pas vraiment des décisions à prendre, c'est du tri plutôt, mais quand même en période de transition, hein, de choix d'options ou de choix de filières ou de choses comme ça, la démarche est plus efficace. Voilà.